UMC TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est couple en difficulté, que faire ? Et aujourd'hui, c'est Annabelle qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, notre invité, le pasteur Alain-Patrick Tsenguet, nous dira comment gérer les crises dans le couple. Voilà, vous connaissez le programme ? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde.
Bonjour Yveline.
Pasteur Alain-Patrick, bonjour.
Bonjour Yveline.
Comment vas-tu?
Très bien, par la grâce de Dieu.
Super, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Bonjour chez vous. Nous allons t'avoir avec nous cette semaine, également jeudi et la semaine prochaine, vendredi, pour ta rubrique « C'est mon histoire ».
Amen.
Et Pasteur Alain, tu es là depuis les débuts d'Enseigne-moi. Mm-hmm. Tu es un fidèle d'Enseigne-moi et maintenant EMCI TV, c'est ça?
C'est ça. Exactement. On y est depuis le début, hein, depuis la première réunion à Séné.
Tu étais là?
J'étais là.
Tu étais là, présent?
J'étais là, il y avait des personnes qui étaient là aussi. Je cite les noms?
Non, ça, non, non, ça, ça, non, ça va.
Allez,
ça...
ok, d'accord.
Mais on te croit. On te croit, il y avait des Bretons.
Voilà, voilà.
Mais
voilà,
pas que des Bretons, j'imagine.
Pas que des Bretons, oui.
Et tu as fondé les églises ACER, et tu as des campus un petit peu partout, je te laisse les citer.
Oui, j'en ai à Paris, Paris-Montreuil, Paris-Épinay, j'en ai en Bretagne, à Rennes, à Brest, j'en ai à Lyon, j'en ai en Normandie, à Vernon. Et actuellement, on est en train de lancer, en octobre, on lance Quimper, on a lancé Libreville il y a 2-3 semaines.
Oui.
Oui, et Montpellier, on a lancé la semaine dernière.
Waouh!
Ouais.
Ah, vous vous arrêtez jamais?
Ah, ça, il faut y aller, hein. Jésus revient bientôt.
Ah, t'as raison, t'as raison. Et tu travailles avec ta chère épouse Paulette, mmh, qu'on salue d'ailleurs. Bonjour Paulette, mmh, qui est pasteur à l'église Paris-Montreuil.
Paris-Montreuil.
Paris-Montreuil. Et vous avez 4 enfants.
4 enfants et c'est tout. Et c'est fini, c'est 4.
Donc, 4 pour moi, c'est pas, quoi,
vous ne faites pas le coup d'un prophète qui est venu, j'étais à 2, et il m'a dit, Dieu me montre que vous aurez 2 autres enfants. Je lui ai dit, prophète, annule la prophétie tout de suite. Et ben, ça a marché. J'ai eu 2 autres enfants.
Il s'est pas trompé, finalement. Hein.
Ah ben oui, il s'est pas trompé. 4 enfants. 4.
Quatre
une parole
enfants
pour toi, là.
Oh non, 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 non.
Dieu va multiplier les églises.
Alléluia.
Là, il reçoit. Là, il reçoit.
Non, mais parce que c'est un prophète, donc s'il dit,
faut faire attention. Hein. Faut faire attention.
On n'a qu'une seule fille, tu vois.
Ouais, ouais. Amen.
En dépit de toutes les prophéties.
Ah oui, parce que vous en avez. Vous en avez
beaucoup. Il y a eu beaucoup de prophéties.
Il résiste. Prophéties que d'enfants.
Il résiste envers et contre tout. Donc aujourd'hui, nous allons parler des couples en difficulté. Mmh. Ben oui, malheureusement, hein, on l'a déjà dit dans cette émission, le taux de divorce est le même chez les couples chrétiens que chez les couples incroyants. Donc malheureusement, là où il devrait y avoir une différence, il n'y en a pas. Donc on voit qu'il y a encore du travail à faire. Il y a, les couples ont besoin d'aide, ont besoin d'être épaulés, d'être aiguillés. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On commence avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Annabelle, le titre de ta pensée est « Mon couple, ma bataille ».
Oui, aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à vous, les couples qui traversez des difficultés, ça va mal dans votre couple, vous vous demandez est-ce que ça vaut encore la peine de se battre, est-ce que ça vaut encore la peine de croire, est-ce qu'il y a encore un espoir, une solution, est-ce que finalement le divorce, la séparation ne serait pas la solution parce que je n'en peux plus et je veux vous dire oui, il y a encore de l'espoir, oui, il est encore temps de se battre, oui, c'est encore le jour pour croire et vraiment, je veux vous encourager à ne pas lâcher le combat. Et lorsqu'on parle de combat, on parle d'ennemis, forcément. Dans un combat, il y a un ennemi à vaincre. Et malheureusement, dans des histoires de couple, on a tendance à croire que l'ennemi, c'est soit le mari, soit la femme, et à s'accuser l'un et l'autre. Mais rappelez-vous ce que nous dit la Bible du mariage, de l'union entre un homme et une femme, c'est que cet homme et cette femme que vous êtes dans votre mariage ne forment qu'une seule chair. Alors comment cela pourrait être la solution que l'un ou l'autre de votre couple soit détruit. Comment ça peut être la solution de détruire une personne dans ce couple, alors que dans un couple, il n'y a que deux personnes et il y en a une qui serait détruite? Non, c'est sûr que ce n'est pas ça la solution de Dieu, ce n'est pas ça la solution pour pouvoir faire en sorte que votre couple se relève. Il y a un ennemi qui veut s'en prendre à vous deux, qui veut s'en prendre à votre couple, qui veut détruire votre alliance, détruire votre unité. Et cet ennemi, c'est tout simplement le diable. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre des dominations, contre des esprits méchants. Et si vous voulez unir vos forces, unissez-vous contre le vrai ennemi, contre celui qui en veut vraiment à votre couple. Unissez votre colère, vos désaccords, tout ce qui aujourd'hui vous sépare. Pouvez vous unir pour combattre cet ennemi qui s'appelle Satan ensemble dans la prière. Et dans Éphésiens 6 au verset 13, c'est écrit: c'est pourquoi revêtez-vous et prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que dans la Bible, dans Éphésiens, on voit qu'il y a un parallèle entre l'histoire d'amour entre l'Église et Jésus et entre le mari et la femme. Que de la même façon, la Bible va nous parler de cet amour qui est pur, de cet amour qui est divin entre Jésus et son Église et entre le mari et sa femme. Et j'aimerais que vous puissiez prendre un verset dans Romains 8. Peut-être que vous l'avez jamais lu comme ça pour votre couple. Mais je crois qu'il y a de l'espoir et qu'il y a de la puissance dans ce verset et que ça doit devenir une nouvelle déclaration de foi. Ça doit devenir votre vision pour votre couple. Donc dans Romains 8, qui nous séparera de l'amour de Christ? Et on a vu cet amour, c'est le même amour dont la Bible nous parle pour notre union, pour notre couple. Qui séparera notre amour dans notre couple? Qui pourra séparer notre amour? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse, la persécution? La faim, les problèmes financiers, la nudité, le péril ou l'épée, les circonstances difficiles, un mari ou une femme qui a perdu son emploi, des situations avec les enfants, etc. Est-ce que ce sera tout ça qui va pouvoir vous séparer? Non. La Bible nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et le verset suivant, car j'ai l'assurance, et ça c'est vraiment, mettez-le et prenez-le pour votre couple, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, aucune femme, aucun homme ne pourra séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que rien de toutes ces choses ne pourra vous séparer dans votre couple. Personne, rien, ni aucune domination, ni aucun mauvais esprit, ni aucune femme qui tente de voler votre mari, aucun homme qui fait de l'œil à votre femme ne pourra vous séparer. Et je vous encourage vraiment à reprendre ce passage et à le déclarer pour votre couple. Et comme je l'ai dit aussi un peu plus tôt, unissez vos forces pour attaquer le vrai ennemi. Et vraiment, vous vous êtes fâchés l'un contre l'autre, mais regardez à ce vrai ennemi et dites, ok, on va s'unir contre notre vrai ennemi, on refuse de se laisser avoir un jour de plus.
Amen. Amen. Merci Annabelle, cette pensée qui encourage. Alors peut-être qu'il y a des couples qui nous écoutent et qui se disent, moi c'est bien trop tard, c'est allé tellement loin, on s'est dit tellement de choses horribles, de toute façon pour nous il n'y a plus d'espoir. On va regarder le verset du jour ensemble, Marc 10 au verset 9, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Vous pouvez vraiment prendre cette décision de ne pas vous séparer, de vous battre ensemble comme l'a dit Annabelle, parce que exactement ce que tu as cité est tellement vrai. On se trompe d'ennemi, on croit que notre ennemi c'est notre mari, c'est notre femme, il a fait ça, elle a fait ça, il a dit ça, elle a dit ça, et puis on est fixé là-dessus et on est complètement aveuglé sur une réalité qui est évidente. Ce que le diable veut faire, c'est détruire les familles, diviser, séparer. Et comment faire pour détruire une famille entière, des enfants qui auront peut-être même une destinée volée parce qu'ils vont vivre un traumatisme au moment de la séparation de leurs parents? Ben voilà, on brise le couple et puis on détruit toute une famille.
Amen.
Vous êtes tous d'accord. Amen. Pasteur Alain, je suis sûr que tu as quelque chose à nous dire.
En fait, lorsqu'on se marie, il faut vraiment qu'on construise notre foi en comment je vais dire ça. En fait, Le diable va nous faire croire que on ne va pas y arriver, que on est allé trop loin, que on peut pas faire marche arrière, que l'issue c'est la séparation. Alors que la parole de Dieu nous donne toujours des issues, et je pense que c'est le moment de pouvoir utiliser sa foi lorsque on est dans ces périodes de crise là pour pouvoir enclencher le processus de réconciliation pour pouvoir proclamer même la réconciliation. Je pense que lorsqu'on a on est en période de crise, on a ces problèmes-là, il faut qu'on proclame que c'est possible, on proclame que Dieu va restaurer notre couple, on proclame qu'on va y arriver, qu'on peut y arriver, et on lit les histoires des couples qui ont peut-être vécu les mêmes histoires que nous et qui sont parvenus, qui sont arrivés, quelle que soit la situation par laquelle ils sont passés. Je pense qu'on connaît chacun d'entre nous les histoires, que ce soit dans la parole de Dieu ou même autour de nous des personnes qui s'en sont tirées. Et on doit y croire, on doit développer la foi selon laquelle c'est possible de pouvoir reconstruire le couple et de pouvoir bâtir quelque chose de meilleur. Et moi, je pense à ce verset biblique, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première.
Amen.
Je pense que la période de crise par laquelle le couple est passé, c'est une dispensation, mais il y a une autre dispensation qui va s'ouvrir, qui va être meilleure. Mais il faut développer la foi que cela est possible.
Il faut développer aussi, tu sais, on parle souvent de développer les sentiments qui étaient en Christ, en nous, vis-à-vis des perdus et tout ça. Mais dans la société d'aujourd'hui, il y a la mentalité, ça va pas bien, c'est fini.
Oui.
Je te balance par la porte, c'est fini, on arrête ça, ça marche pas, je suis tanné, je veux pas vivre ça ici et ça. Oui. Quand tu t'es marié devant Dieu, les gens, ils prennent ça à la légère. Il y a pas d'option, en fait, pour Dieu, c'est la réconciliation en toute chose. Et Dieu a voulu se réconcilier avec l'homme. Il aurait pu dire, Dieu avec les hommes, fini, j'en veux plus, c'est fini. L'homme blasphème, fait ci et ça. Non, il a tant aimé qu'il a voulu la réconciliation avec l'homme. Et on doit avoir la même mentalité dans notre couple. J'aime cette personne, je me suis marié avec elle. Devant Dieu, je fais une seule chair. Et là, le divorce, cette séparation-là, peu importe qu'est-ce que c'est pas une option. Je décide d'aller pour la réconciliation. Je veux avoir les mêmes sentiments, ce même cœur qui animait Jésus pour, vis-à-vis de nous. Je veux l'avoir vis-à-vis de mon mari, même s'il m'a fait du mal. Je décide de pardonner. Je décide, je veux vivre cette réconciliation. Et ça, ça doit faire partie de nous, en fait. On pense souvent à ça, d'avoir les mêmes sentiments qui est en Christ pour toutes sortes de choses. Mais vis-à-vis de notre mari ou notre femme, ça doit être là. Et ça, faut prier et développer ça. Je veux dire, il faut premièrement pardonner la personne, peu importe ce qu'elle a fait. On l'a souvent dit dans Bonjour chez vous, par rapport à des couples, on doit marcher dans le pardon. Sinon, tu vas toujours être rancunier, tu pourras pas passer par-dessus cette montagne. Tu dois pardonner, tu dois commencer à prier, à bénir l'autre personne, même si ça fait mal, même si c'est difficile. Il faut commencer à exercer ces choses-là. En le faisant, il va y avoir des choses dans le monde de l'esprit qui vont commencer à débloquer, à vraiment à débouler vers le mieux. Ça, c'est des conseils qui me viennent à cœur, en tout cas, en écoutant Annabelle ta pensée pour de vrai. C'était super.
Je vais juste faire une toute petite parenthèse parce que on sait pas du tout le but de cette émission, mais je veux juste rappeler qu'il y a certains cas lorsque la vie de la femme ou de l'homme est en danger. Je parle de violences conjugales, de choses vraiment très, très graves. C'est pas ce dont on parle.
Non,
là. Je
c'est
veux
ça.
Juste préciser, juste pour cadrer les choses, parce que certaines personnes vont se dire, oui, je dois rester, je dois continuer, mais leur vie est en danger.
Voilà, dans ce cas, il faut la séparation.
C'est pas ça.
Voilà.
C'est pas
voilà,
ça.
Il faut qu'elle se protège.
Exactement.
Le temps que le mari puisse se soigner ou que la femme violente, parce qu'il y a des femmes qui t'appelaient mari. Moi, j'en ai croisé, j'en ai reçu dans mon bureau. Et le temps que le conjoint violent puisse se soigner. Il ne faut pas s'exposer en restant là. Sinon,
c'est
dangereux. Il peut y avoir mort d'homme.
Ce n'est pas
ce cas-là, en fait.
Non, ce n'est pas de ce qu'on parle.
C'était juste une parenthèse que je voulais faire pour bien clarifier les choses.
La différence entre nous qui avons Christ dans notre vie et les autres couples,
c'est ça.
Dit qu'effectivement, le taux a l'air d'être le même. C'est que on pourra pas sortir vainqueur, je pense, de ces difficultés si on marche d'une manière toute humaine.
C'est ça.
Il nous est impératif d'être rempli du Saint-Esprit.
Ouais. Amen, amen, amen.
Pour sortir de cette difficulté ou de ces difficultés, ce sera impossible de le faire en prenant des conseils humains, en essayant d'avoir des témoignages de d'autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il nous fera forcément des témoignages qui viennent d'en haut, des témoignages où Dieu s'est manifesté, mais pas quelque chose qui vient du naturel. Et ceux qui passent par des difficultés, c'est pas seulement dans la maison, mais il y a aussi des gens qui sont déjà séparés, où la femme a dit, moi, pendant un mois ou six mois, je veux que on va vivre séparément, etc. Il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, c'est ce qu'ils vivent. Et l'autre qui n'a pas voulu la séparation, c'est un combat. Mais aussi dans ce combat, c'est aussi quelque chose que Dieu peut transformer en bien. Il peut transformer le mal en bien, où la personne en fait qui n'a pas voulu la séparation, elle est seule. Elle est un peu comme tout à coup l'apôtre Paul qui était tout seul, comme entre guillemets Jésus qui marchait tout seul. Et là, il y a plus que le Seigneur.
Quoi. C'est ça.
Et aussi vrai que la Bible dit que l'homme marié, voilà, il s'intéresse à sa femme, etc. Quand on se retrouve dans des situations de séparation pour un temps, c'est, je crois, le temps de puiser vraiment, de puiser en Christ et peut-être de renoncer à certaines choses qui étaient dans notre propre vie, qui ont créé ces difficultés. Parce que c'est pas forcément celle qui a voulu séparer ou celui qui est en tort, mais c'est peut-être nous aussi.
C'est ça.
Et Dieu va nous montrer pendant ces temps-là où on passe du temps dans la prière, dans le jeûne, à dire, Seigneur, non seulement je veux que mon couple soit réconcilié, restauré, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal?
Ça demande beaucoup d'humilité, ça. Mais c'est vrai, sur ce plateau, on a déjà partagé des témoignages de couples qui se sont réconciliés. Et quand la personne priait, disant « change mon mari » ou « change ma femme », Dieu lui a dit « c'est toi que je veux changer ».
C'est ça.
Et c'est souvent ça, en fait. Et c'est vrai qu'il faut être combatif pour protéger son couple, pour sauver son couple. Mais il faut aussi être très humble devant Dieu. Devant Dieu, on n'est pas combatif. Devant Dieu, on est humble, on est vulnérable. Et puis on dit « Seigneur, sonde mon cœur. Qu'est-ce que je dois changer ? Quel est mon problème ? Est-ce qu'il y a un problème de soumission ? Est-ce qu'il y a un problème même lié à mes parents, des choses qui m'ont été inculquées, etc. C'est important d'avoir cette attitude-là.
Parce qu'après, même de garder sa femme ou son mari, c'est pas le but en soi, comme un petit animal en cage, quoi. C'est le fait que tu pries, Seigneur, fait qu'elle s'en aille pas, qu'il reste, mais tu fais rien pour travailler ton couple, tu fais rien pour rendre cette personne heureuse. C'est pas ça le couple, selon Dieu, il y a tellement plus derrière, il y a une vraie unité, il y a une vraie unité et pas seulement une unité physique qui est là, on reste ensemble sous la même maison pour X raisons. C'est ok, si je prie pour pas qu'il ou qu'elle parte, c'est une chose, mais donne-moi, éclaire-moi, change mon intelligence, donne-moi de la sagesse pour savoir comment aimer cette personne, pour qu'elle ait envie de rester, en fait. Parce que si le combat perpétuel depuis 10 ans, c'est juste que la personne ne parte pas et que tous les 5 matins, c'est je pars, les papiers du divorce sont ressortis tous les 2 jours. On est en train de mener un faux combat, en fait, parce qu'il y a quelque chose à la source et c'est ça qu'il faut aller absolument, absolument régler.
Parce qu'un couple en difficulté, c'est pas seulement celui-là, justement, qui a les papiers de divorce qui est sorti, mais c'est aussi des tas de gens qui nous écoutent et qui se disent qu'ils sont pas en difficulté alors qu'ils le sont. Si on n'a plus de passion, si on n'a plus d'amour, si on n'a plus de partage, si on n'a plus vraiment un amour, un désir de voir l'autre, des temps où on est ensemble à manger, à parler, à communiquer, à discuter, c'est qu'on est en difficulté.
Il y a déjà un problème.
Quoi. Et là, on doit chercher le Seigneur.
C'est ça. C'est souvent une crise dans le couple, ça va y aller, ça va descendre.
Et parfois, ça va progressivement, progressivement, jusqu'à ce que ça clash.
Exactement. Et avec toi, Pasteur Alain, on va parler maintenant des différents domaines dans le couple où, justement, on est sujet à ce qu'il y ait des crises, à ce qu'il y ait des clashs, et puis tu vas nous dire comment on peut s'en sortir dans la rubrique « Famille ». Donc, Pasteur Alain Patrick, j'imagine que tu as suivi pas mal de couples dans toutes tes années de pastorat.
Beaucoup,
tu es toi-même marié, donc je pense que rien que ça te qualifie pour cette rubrique. Et tu vas nous aider. Depuis combien de temps tu es marié?
16 ans.
16 ans.
On était là.
C'est ça?
Ouais. Moi, j'étais pas, mais 4 enfants, 16 ans,
toute une œuvre à porter, certainement beaucoup de persécutions aussi. Donc, le couple peut être attaqué aussi. Donc, voilà, ce sont des choses, tu sais de quoi tu parles et tu as reçu surtout beaucoup de couples. On t'écoute. Quelles sont ces crises qui arrivent quand même fréquemment dans les couples?
Très souvent, j'ai énuméré ici 6 raisons. Les raisons ici ne sont pas exhaustives. Il y a beaucoup d'autres raisons. Des causes qui peuvent amener des crises dans le couple. J'ai énuméré l'éducation des enfants, l'intervention de la belle-famille, les mauvais amis, les problèmes financiers, les problèmes doctrinaux, l'acte conjugal.
6 points.
Ça va être un bon point.
Voilà, ça va être un bon point. Franck, attends ça. Très souvent, lorsque on a des enfants, on veut systématiquement inculquer l'éducation qu'on a reçue de nos parents. Or, on ne vient pas de la même famille. Et ça peut parfois amener des divergences. Par exemple, dans certaines familles africaines, on ne doit pas manger avec la fourchette, la cuillère. La nourriture doit se prendre avec les mains. Annabelle me regarde bizarrement.
Annabelle vient d'une famille où on mange avec les mains, apparemment.
Je prends un exemple, hein, très simple, avec les mains. Et lorsque l'enfant va utiliser, par exemple, les fourchettes, les choses comme ça, bon, certaines personnes vont penser qu'il snob, quoi, il fait le bourgeois, pourquoi il mange pas avec les mains. Et la famille, l'autre côté, le conjoint qui a été éduqué différemment, va expliquer autre chose à l'enfant. Et voilà comment un repas de famille peut tourner en une guerre ou un problème, un conflit qui peut amener un froid dans un couple. Et ça, on ne se rend pas compte que parfois... bon, il n'y a pas que l'histoire de la cuillère, hein, et des fourchettes.
Non, ça, je sais.
Il peut y avoir aussi ouais. Autre chose. Par exemple, le papa veut que l'enfant soit cuisinier. Je prends un exemple comme ça. Et la maman veut que l'enfant soit ingénieur. Parce que pour la maman, cuisinier, c'est un métier bas, des trucs de ce genre. Et ça va causer des problèmes plus tard dans le couple. Voilà, bon, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. OK, la deuxième crise, l'intervention de la belle-famille. Bon, il y a quelque chose que j'aimerais préciser. La Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents », mais moi, je suis convaincu qu'on obéit à nos parents lorsqu'on est sous leur responsabilité, lorsqu'on est sous leur toit. Mais lorsqu'on n'est plus sous leur toit et qu'on a notre foyer, on a nos responsabilités, on leur doit honneur et pas obéissance, forcément. Mm-hmm. Imaginez que votre maman vous donne un ordre. Je prends un exemple sur votre voiture que vous avez payée et ça tourne mal. Quand ça tourne mal, c'est vous qui avez payé la voiture est sous votre responsabilité, c'est vous qui allez payer les pots cassés, vous voyez un peu. C'est vrai que si vous êtes chez elle, sous sa responsabilité, c'est elle, là vous lui devez obéissance, mais quand c'est un foyer autonome, on doit honneur, on doit louer nos parents, apprécier nos parents, dire du bien de nos parents, mais par contre, on n'est pas obligé d'obéir à tout ce qu'ils nous disent lorsque nous sommes un couple autonome. Parce que ça peut causer des problèmes et il y a eu des confusions dans les familles chrétiennes à cause de ce passage d'Éphésiens 6:1. Enfants, obéissez à vos parents. La belle famille intervient dans le couple et il présente Éphésiens 6:1. Il dit non, ta Bible dit que tu dois m'obéir. Non, je pense
que... La Bible dit aussi que l'homme qui à son père
et sa mère pour s'attacher à sa femme. Voilà. Et ça amène souvent des problèmes dans les couples où la belle-mère un peu trop envahissante ou le beau-père un peu trop directif, ça peut amener des problèmes dans le couple. Pour ça, que faire et comment faire? Je donne un conseil très simple. Je dis souvent que pour ta belle-famille, en vérité, au fin fond d'eux et de la famille, tu es quand même un étranger. Et je donne souvent un conseil, je dis, l'idéal, c'est que ton mari ou ta femme parle à sa famille lorsque la famille intervient dans vos affaires de couple. Parce que lorsque toi-même tu interviens, déjà tu peux faire des maladresses.
Oui.
Et deuxièmement, ça peut très mal passer parce que mine de rien... c'est vrai, tu peux être accepté dans la famille, on peut te dire qu'on t'accepte, mais... tu n'es pas leur enfant.
C'est ça.
Voyez, et je conseille souvent au conjoint qui a la filiation de pouvoir parler à sa famille. Et parce que sinon, ça peut amener énormément de problèmes parce que vous pouvez vous retrouver entre l'enclume et le marteau. Ma femme ou ma famille, mon mari ou ma famille. Il faut énormément de sagesse là-dessus. Et je sais que ça a amené des problèmes et des crises dans le couple. La troisième raison à certaines crises, ce sont les mauvais amis. Ceux qui influencent mal, ceux qui influencent de la mauvaise façon, la mauvaise manière, votre conjoint. Je prends un exemple, votre conjoint, il ne fumait pas, il ne buvait pas, mais depuis qu'il fréquente ce garçon, il se met à fumer, il se met à boire. Ou bien, vous remarquez tout simplement que cette personne là a une mauvaise influence caractérielle sur votre conjoint. À un moment donné, je pense qu'il faut vraiment que les choses soient claires, nettes et précises. Et parfois, on se retrouve à choisir entre nos amis ou notre ami qu'on aime bien et notre conjoint qui voit cette mauvaise influence. Et parfois, elle peut dire, tu as changé depuis que tu fréquentes ces personnes-là. Tu as changé depuis que tu fréquentes telle. Tu n'es plus la même personne. Et c'est important qu'on s'arrête un tout petit peu et qu'on se dise, ah ben tiens, si ma femme a vu ça, si mon mari a vu ça, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose de dérangeant dans peut-être ma relation avec ces personnes-là. Mm-hmm. La quatrième raison, ce sont les problèmes financiers. Ah là là, les problèmes financiers.
Ça, c'est terrible. Hein.
Moi, je crois sincèrement que la volonté de Dieu est que nous soyons prospères pour que nous n'ayons pas ce type de pression financière. Mm. Mais il y a un problème clé dans les problèmes financiers. Dans un couple, il y a toujours un dépensier et un économe. Si les deux sont économes, il y a toujours un qui est moins économe que l'autre. Il y a toujours un qui est faible en gestion financière. Oui. Moi, ce que je préconise, ce que je conseille, c'est que la gestion de l'argent soit confiée à la personne la plus sage en matière financière.
Ça, parce que moi, vous le faites. Hein.
Voilà, parce que
c'est moi qui gère.
Parce que c'est pour le bien.
Non.
Oui, parce que c'est pour le bien du couple. Oui. Et moi, je sais, pour mon propre témoignage, moi, j'étais quelqu'un de très, très, très dépensier. Vraiment. J'étais un professionnel des achats impulsifs. Je pouvais enseigner à l'université sur comment faire des achats impulsifs. C'était impossible que je rentre dans un supermarché, peu importe le supermarché, sans que je ne ressorte avec quelque chose.
Wow.
J'avais l'impression de vexer le vendeur. ou bien j'avais compassion. Je disais, oh là là, il faut quand même que j'achète quelque chose. Et donc, ça faisait beaucoup de mal. Et regardez, écoutez le témoignage à un moment donné, vraiment, ça a mis mon couple en difficulté parce que je gérais très mal et ça a mené certains problèmes financiers. Mmh. Et à un moment donné, mon épouse n'en pouvait vraiment plus et je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, je vais te donner toutes mes cartes bleues.
Wow.
Je vais te donner mon chéquier. Et ce qu'on va faire, c'est que à la fin du mois, tu me donnes juste de l'argent de poche.
C'est très humble.
Et je l'ai fait parce que je me suis rendu compte que j'avais vraiment un problème dans dans ce domaine. Mm. Alors que elle, comptable de formation, elle était un peu plus calée. Et ça m'a aidé.
Ça t'a guéri?
Ah oui, ça m'a guéri et ça m'a aidé, je vous assure.
Il n'avait plus d'argent à dépenser.
Dis-moi, Franck. Oui.
Sur les finances, parfois dans des couples, ce que tu peux voir, c'est un qui va avoir un style de vie trop haut versus là où ils sont actuellement.
Ouais.
Et ça, je ne sais pas pourquoi tout le monde rit, on dirait.
C'est à cause des
sondrés. Ah, OK. Et donc, ben, ça crée des problèmes. Et ça, il faut savoir vraiment, vraiment être humble et savoir se parler l'un à l'autre parce que ça crée beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, il y a des gens, ils vivent un style de vie. Je vois des gens de 30 ans qui ont des nouvelles voitures, de la grosse maison, et je me dis, mais comment ils font pour arriver? Et puis, c'est la corde au cou, c'est des tensions, c'est toutes sortes de choses.
C'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a celui qui dépense, il se soucie de rien.
C'est ça.
Mais celui qui gère les finances, lui, il se prive. Donc, ça crée une frustration. Je ne me tourne pas vers vous parce que je sais pas si
Non, ils ne le font pas.
Non, ils ne le font pas. Mais j'ose plus me tourner vers vous.
Ça crée un problème, c'est que là, tu as la maison à payer, puis là, elle a vu dépenser, les enfants, il faut qu'il y ait de nouveau linge. Et là, lui, il travaille du temps supplémentaire le week-end, il se voit plus, et là, ça crée toutes sortes de problèmes. À partir d'un petit truc, il faut juste être raisonnable, en fait. Et puis ça, c'est simple à faire, et il faut savoir diminuer s'il le faut pour un temps.
Et ça m'a vraiment aidé, parce que je me contentais de ce qu'elle me donnait. Mmh. Et la situation a duré 2 ans. 2 ans comme ça. Ah oui, il fallait casser l'habitude. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à prier. J'ai dit, non, Seigneur, il y a un problème. Et je sais que pour pouvoir changer des habitudes, il faut remplacer les mauvaises habitudes par des bonnes. Mm-hmm. Mais aussi, ça se passe dans la tête. Et j'ai commencé à acheter des livres de gestion financière. Et j'ai commencé à les lire pour que ma mentalité mentalité puisse changer. Mm-hmm. Et pendant les 2 années, ma mentalité a changé et j'ai appris à épargner. Et je me rappelle que après les 2 années, mon épouse était surprise de voir l'épargne que j'avais constituée.
Wow.
Parce que je me suis dit tout simplement, non, on ne peut pas continuer comme ça. Je ne vais pas vivre toute la vie. Ma femme me donne l'argent de poche, quoi.
C'est-à-dire... C'est une saison.
C'était, ça. Oh là là, c'était terrible, mais en même temps, ça m'a éduqué. Mmh. Et à partir de ce moment-là, ma sagesse dans la gestion financière a vraiment augmenté. J'ai fait mes preuves. Mmh. Mes cartes bleues ont été restituées.
C'est ça que j'allais dire, t'aurais eu ton chéquier.
Mes chéquiers ont été restitués. Mais c'est vraiment après avoir présenté une épargne. Hein, après avoir fait vraiment des preuves.
Mais parce que t'avais réellement changé, t'avais pris conscience du problème.
Amen, 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 amen. J'avais vraiment changé. Donc, une autre raison aux crises, la doctrine. Ça peut arriver à un moment donné. Ça peut arriver à un moment donné. Vous deux, vous croyez au baptême du Saint-Esprit avec le signe du parler en langue et tout à coup, le mari ou la femme vient et dit non, je ne crois plus à ces trucs-là, ce sont des hérésies. Mm-hmm. Non, voilà, le parler en langue, c'est ceci, c'est cela. Et voici le conjoint qui fait la guerre à l'autre lorsqu'il prie en langue à la maison.
Oui.
Arrête de parler cette langue diabolique. Je te dis que c'est diabolique. Je te dis qu'on ne parle plus en langue aujourd'hui. Et ça peut causer sérieusement de problèmes.
Ah, c'est sûr, c'est terrible.
Voilà. Et il n'y a pas que le parler en langue. Il y a aussi beaucoup d'autres points
doctrinaux.
Comment y remédier? Ouais. Ben déjà,
l'animateur Frank est dans la place.
Oui, déjà, il faut que le couple ait un pasteur.
Amen.
Il faut que le couple ait un pasteur. Qu'est-ce que votre église enseigne? C'est ça, en fait. Qu'est-ce que votre église enseigne? Je sais qu'il y a des églises qui vont croire au baptême du Saint-Esprit, d'autres qui ne vont pas croire au baptême du Saint-Esprit. Maintenant, moi, dans le cas de nos églises, nous, on croit au baptême du Saint-Esprit par le signe du parlant d'autres langues. Voilà, s'il y a quelqu'un qui vient et qui ne croit pas en ça ou qui croyait avant et qui ne croit pas en ça, on prend un temps pour enseigner la personne et lui expliquer à quel point elle a tort. Lorsque vous allez voir...
Excuse-moi, c'était bon.
Lorsque vous allez voir votre pasteur, un homme de Dieu avisé, il pourra vous expliquer, voilà, où est-ce que vous avez fait l'erreur dans la doctrine, parce que c'est très subtil.
Le principe, c'est d'éclairer l'autre.
Voilà.
Là où il s'est fait mal endoctriné, finalement,
voilà.
Là où il y a eu l'erreur, et puis de rectifier la vérité.
Mais il faut se faire aider. Il faut vraiment se faire aider parce que dans un couple, il y a ce qu'on appelle la familiarité. Et généralement, il y en a qui disent « nul n'est prophète chez soi », en fait. Mmh. Donc, ta femme, on a l'impression que tu auras moins de crédibilité lorsque tu vas expliquer les choses parce que, bon, parfois, elle sait que tu ne lis pas trop la Bible ou bien que tu ne... Voilà, et ça peut faire en sorte que tes paroles n'ont pas de poids. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir un pasteur, un homme de Dieu, pour qu'il puisse vous aider là-dedans.
Mmh.
OK, la dernière raison, c'est l'acte conjugal. L'acte conjugal.
C'est parce qu'il est un peu gêné, je pense.
Ah ben, tout à coup, il fait chaud sur ce plateau.
Il est rouge.
Il fait chaud sur ce plateau. Ah là là. L'acte conjugal. Vous n'imaginez pas à quel point... Moi, je suis pasteur depuis plusieurs années. Vous n'imaginez pas à quel point les problèmes de couple sont liés à cette affaire de sexe.
Mmh.
Ils viennent vous voir, hein. Ils viennent vous voir, mais ils vous donnent des motifs. Mmh. Mais bizarre, non. Ma femme, quand elle prend la pâte dentifrice, elle appuie au milieu. Moi, j'aime bien quand on appuie au bout, parce que au milieu, ça fait des ordres, machin. Tu dis, mais
c'est vrai ça.
Arrête d'attendre la suite pour attendre.
Et quand vous regardez, vous dites, mais je comprends pas tout ça, tout ce bazar, voilà.
C'est ça.
Et là, parfois, il faut que le Saint-Esprit vienne vous aider. Et quand le Saint-Esprit vous donne l'idée, et là, vous posez la bonne question.
Mm-hmm.
Ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu de rapport, rapport sexuel? Mm-hmm. Et là, vous êtes surpris.
Mm.
Pasteur, ça fait trois mois. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas eu de rapport sexuel.
Ah ouais.
Et là, vous vous rendez compte que
le problème est là.
Voilà, que le problème est là. Mm-hmm. Et là, vous commencez à creuser. Et c'est là où vous vous rendez compte que le problème vient parfois des divergences. Dans la conception même de la sexualité dans le couple, dans la conception. Mmh. Et parfois, il y a des gros problèmes là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je vais vous dire ce que j'en pense. Hein, OK? On fera pas de dessin. Il y aura pas de graphisme. Hein.
On va s'abstenir des dessins.
On va s'abstenir, ok. Pour moi, je pense que trois principes prévalent. Je pense l'hygiène, le consentement et l'intégrité du corps. L'intégrité du corps, c'est voilà quoi. Il faut pas que l'autre se retrouve le mot plat déplacé parce qu'on l'a accroché au plafond. Vous comprenez?
On voit.
Cette émission est géniale.
Oui, venez, bon, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une innovation.
Non, arrête, c'est bon.
Dans ce fouet, il y a des pointes.
Ok. Intégrité voilà. Du corps, on la maîtrise, on l'a compris.
Intégrité du corps, oui. Hygiène et consentement. Mm-hmm. Principalement, moi, c'est ce que j'en... C'est ce que j'enseigne. Et on arrive avec ça à pouvoir équilibrer les choses dans la sexualité chrétienne. Mm-hmm. Parce que bon, il y en a, il faut avouer, qui ont quand même, qui viennent dans la vie chrétienne avec les anciennes expériences, les anciens trucs. Mm-hmm. C'est païen, quoi, ce qu'ils font dans leur sexualité. C'est païen. C'est vraiment païen. C'est vraiment païen.
Oui.
Par exemple, on ne s'insulte pas. Pendant l'acte, on ne s'insulte pas. Mm-hmm. Vous voyez un peu, ça, c'est païen, ça. Mm-hmm. J'ai reçu un jour un couple, c'est terrible, pasteur. Quand le mari m'a dit que lui, pour se sentir bien, il fallait qu'en le faisant, il insulte sa femme.
Ah, c'est terrible.
Je me suis dit, mais Seigneur Jésus, je comprends pourquoi vous avez des problèmes. Mm-hmm. Parce que dans le monde spirituel, les mots ont de l'impact, vous voyez un peu. Donc ça peut être une des raisons, une des causes.
Tu as fini
comme ça?
C'est génial comme ça. Le consentement.
Hein?
Le consentement.
Ah, le consentement, en fait, les deux doivent être consentants. Les deux doivent être consentants pour pouvoir faire quelque chose dans l'acte sexuel, pour pouvoir expérimenter un nouveau truc. Les deux doivent être consentants. Mm-hmm. Ça, c'est important.
On
parce
force
que...
pas l'autre
non, il faut
dans
pas
sa fantaisie. Quoi.
Non, il ne faut pas forcer. Il faut pas forcer. Vous savez, l'amour respecte l'autre.
Mais c'est ça.
Et c'est important de respecter aussi la volonté de l'autre. C'est important de préparer l'autre, de discuter avec l'autre. Le jour où la personne est prête à le faire, vous y allez. Mais si elle n'est pas prête à le faire... tu ne forces pas la personne. Mmh. Sinon, c'est quand même un manque de respect. Mmh. Et il y en a, c'est vrai, qui vont prendre le verset biblique, qui vont dire non, le corps de la femme n'appartient pas à l'homme, le corps de l'homme n'appartient pas à machin. Mmh. Bon, au moment où tu forces ta femme de faire quelque chose, la femme peut dire aussi, bon, j'ordonne que ton corps aille à la cuisine me chercher un truc, quoi, tu vois. Mais voilà.
Non, mais c'est vraiment le respect et l'amour.
Le respect
ça
et l'amour.
C'est pas compliqué. Hein.
Voilà, c'est pas compliqué, le respect et l'amour. Mmh. Et je pense qu'en respectant ces trois principes simples, on peut avoir une belle sexualité chrétienne épanouie. Mmh.
On voit dans les différents points que t'as sortis quand même que il y a vraiment une notion de communication qui est indispensable parce que c'est important de se parler, c'est important de se dire ce qui nous convient pas, c'est important de communiquer avec sa belle famille aussi pour le point de la belle famille, l'éducation des enfants, faut en parler ensemble, c'est des décisions communes qu'on prend, etc. Donc il y a cette notion de communication et dans un couple où déjà il y a un problème de communication, on tombe la tête la première dans les six points que tu as cités.
Exactement.
Donc on voit cette importance. Merci beaucoup de nous avoir fait autant rire tout en apportant des conseils importants. On va s'en souvenir longtemps de cette émission, je pense. On a tout ça à jeudi, là, Pasteur Alain. On a tout ça à jeudi.
Amen.
Donc, on va se retrouver demain pour une nouvelle émission de Bonjour chez vous. Notre thème sera « Pries-tu pour tes frères et sœurs persécutés ?» Ce sera une émission qui sera, ma foi, nettement plus sérieuse, mais tout aussi importante. Et puis nous aurons notre rubrique flashback avec Anne qui nous parlera du fondateur de l'organisme Portes Ouvertes. Donc merci à tous, merci Pasteur Alain Patrick d'être venu sur notre plateau. Comme on l'a dit, on se retrouve jeudi. Et puis je vous souhaite une bonne journée et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.